Bienvenue dans la nuit sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle et je vais vous accompagner toute la nuit pour vous faire écouter en version originale les meilleurs moments de la rédaction. Pour commencer, découvrons un premier extrait.
Je m'appelle Marie Crespe et je suis maîtresse de conférences en droit privé à l'IUT Bordeaux-Montaigne.
Et l'auteur, du coup, de cette BD, Le droit à expliquer aux enfants. Qu'est-ce qui vous a amené à faire une BD sur le droit? Qu'est-ce qui vous a un petit peu inspiré, donné envie de faire une BD sur le droit, la sensibilisation au droit?
Le droit à la sensibilisation au droit, merci pour cette formule qui est très, très belle, très juste. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait, c'est le constat de la nécessité que tout un chacun connaisse le droit, en tout cas dans ses grandes lignes, dans ses grands principes. Le constat aussi que tel n'était pas le cas, donc d'un besoin, d'une lacune dans les connaissances, dans la culture générale de tout un chacun. De tout un chacun adulte. Et puis évidemment de tout un chacun enfant, je me suis dit mais en fait il n'y a pas de livre qui explique le droit en tant que système aux enfants, et c'est vrai que dans mes enseignements j'ai constaté ou ressenti en tout cas une certaine parfois opposition au droit, une certaine réticence, pardon, des préjugés négatifs, et je me suis enfin, il m'est apparu évident que une partie de ces opinions, de ces préjugés, pouvait être liée à la méconnaissance du droit et au sentiment d'injustice qui peut découler de l'absence de connaissance des règles quand on se les voit imposer de fait, enfin par la force des choses, puisqu'on vit tous dans le droit. Donc à un moment, elles vont s'appliquer de manière plus sensible, de manière plus forte. Et tout ça a fait que je me suis dit, mais en fait, ça ne peut pas fonctionner une société comme ça si on n'a pas tous un petit peu une connaissance basique des règles, du système dans lequel on vit. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis voilà, je sais pas, moi d'abord j'adore les enfants. Et quand j'explique le droit au mien, je suis dit, et les autres alors comment ils font? Alors il y a pas mal de ressources en ligne, notamment il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour défendre les droits des enfants, ça c'est certain, pour expliquer aussi certains droits. Mais pas le droit en tant que système, pas comme on explique le corps humain aux enfants, pas comme on explique l'univers aux enfants. Et voilà, donc c'est de tout ça que m'est venue l'idée et l'envie de réaliser ce projet.
Et passer par la BD, c'est ce qui vous semblait le plus pédagogue, le plus facile pour sensibiliser du coup au droit?
Alors, le plus, je ne sais pas. En tout cas, indispensable, oui. Mais pas exclusif. C'est-à-dire que le livre n'est pas exclusivement illustré par des BD. Parce qu'il me semblait nécessaire aussi d'avoir des parties où on explique les choses de manière générale. Alors que la BD... Alors, certains livres, effectivement, ne passent que par la BD. Mais dans ce cas-là, je trouve ça difficile, ou en tout cas pour les enfants, d'expliquer des choses générales à travers des petits personnages. D'abord, je voulais poser un cadre. Mais effectivement, après ce cadre général, la BD, elle est indispensable pour mettre en situation, pour amuser aussi, parce que le dialogue crée l'humour, crée les situations, les mises en situation, les répliques, l'évolution des personnages, etc. Et puis c'est vrai aussi, les enfants aiment les BD. Alors pas que les enfants, en vrai, la BD, le roman graphique est un art qui progresse fondamentalement. Donc voilà, c'était nécessaire et opportun aussi parce que ça touche et ça parle aux enfants, la BD. Voilà.
Comment vous l'avez imaginé? Enfin, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? On fonctionne par question, hein, c'est ça?
Oui, le livre est organisé par 11 entrées, 11 questions, donc 11 thèmes, les thèmes les plus généraux, les questions qu'il me semblait qu'on se posait quand on ne connaît pas le droit. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut le en prendre connaissance? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le respecte pas? c'est un métier, le droit? Enfin voilà, toutes ces questions un peu générales et qui sont censées balayer, donner une première approche pour commencer à identifier le droit. Voilà.
C'est oui un premier socle en fait.
C'est la première étape et effectivement quand j'ai fait ce premier volume, je pensais pas au deuxième volume forcément. Mais j'étais déjà super contente d'avoir mené à bien cette entreprise, cette aventure. Mais en réalité, l'idée de la suite, elle est apparue très vite parce que. Je me suis dit, en fait, ça suffit pas. Et puis, plein de lecteurs aussi m'ont dit, mais et la suite, c'est pour quand? Et il y a d'autres questions qui se posent. Et j'ai dit, oui, oui. Et donc, et effectivement, très rapidement, peut-être un mois après, j'ai dit, bon, allez, on va faire le deuxième. Enfin, voilà, c'était évident que j'allais passer très vite à la suite. Et la suite, effectivement, après cette première étape, donc vraiment générale, qui pose les bases, qui permet de dégrossir, le deuxième livre va effectivement un peu plus dans la technique du droit, parce qu'on a posé les bases. Donc déjà on est appuyé sur quelque chose d'un peu concret qui nous situe, on n'est plus perdu. Donc c'est vrai que lire le deuxième avant de lire le premier, alors le deuxième n'est pas encore sorti, hein, il va sortir d'ici un mois et demi, mais j'espère que les gens ne vont pas forcément commencer par le deuxième au risque d'être un peu plus perdu ou de trouver ça vraiment un peu difficile, parce qu'effectivement je pars de l'acquis du premier et donc les questions du deuxième sont beaucoup plus juridiques. Les juristes qui liront, ça leur évoquera des sujets qu'on apprend à la fac de droit, que je ne nomme pas de la même façon, que je n'explique pas de la même façon, mais qui sont exactement ce qu'on apprend en droit, donc de manière ludique, accessible aux enfants. Voilà, il y a pas de, j'emploie pas les mots barbare du droit. Mais c'est pas grave, l'étiquette on s'en fiche, ce qui compte c'est d'expliquer le contenu, et le contenu il est là. Ouais.
Alors vous avez travaillé avec Clara Lang pour le volume 1, donc comment s'est passé le travail en duo, puisque du coup vous êtes pas du tout dans cet univers, comment ça s'est goupillé tout ça?
C'est une aventure, hein. C'est une aventure. Chacune a fait un pari assez grand, hein. Parce qu'on se connaissait pas, parce que ce qu'on devait créer n'existait pas, donc pas de repères, pas vraiment de modèle. C'était aussi une liberté d'ailleurs, hein, d'avoir un boulevard pour se dire ok, on crée ce qu'on veut, ce qui nous semble pertinent. Mais donc n'empêche que c'était un pari. Et puis parce que c'était une première pour toutes les deux. Moi, j'avais jamais fait de livre avec des illustrations. Clara, elle avait, je crois, jamais vraiment travaillé comme ça avec un auteur. Voilà, donc c'était un vrai pari. Et on a eu de la chance, on est deux jeunes femmes, les plus jeunes que moi, mais deux jeunes femmes intelligentes. Elle dessine très bien, elle est travailleuse aussi, parce qu'il a fallu vraiment, vraiment travailler. Et elle n'a pas eu peur, bah oui, on reprend la copie quand ça ne va pas. Donc oui, parfois c'est aussi un peu fatigant, on se dit stop, en fait on voudrait arrêter, mais non, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on estime de mieux. Donc c'est un travail long, exigeant et en même temps gratifiant et qui fait sens. C'est-à-dire que Clara, elle s'est lancée dans ce projet aussi parce que le sujet lui parlait, parce que c'est un sujet qui a une utilité, un but social ou d'intérêt général, ou de changer un peu les choses, alors de manière modeste certes, mais n'empêche que on est toutes les deux convaincues que la société ou le monde tournerait un petit peu mieux, plus rond, s'il y avait des connaissances un peu plus partagées en ce qui concerne le droit.
Et ce projet, il vous a pris combien de temps à partir du moment où vous avez un peu donné le feu vert et jusqu'à l'édition de la BD?
Longtemps. À peu près 2 ans. Mmh. Ouais, 2 ans. Alors, on n'a pas travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans. Il y a eu des périodes de stand-by parce que l'une ou l'autre, on était prise par autre chose. Puis parce qu'aussi, il fallait laisser le temps au temps. Créer un concept, créer un livre de A à Z dans son organisation, dans toute sa dimension pédagogique. Voilà, c'était laisser le temps au temps, laisser le temps de respirer, de créer, de trouver. Voilà, mais le deuxième volume, pas 2 ans. Moi, voilà, maintenant que je savais plus comment faire le livre, quels étaient ses ingrédients, etc., comment ça marche aussi, comment on crée un livre, moi je dors avec, je mange avec, je bois avec, donc il y a eu un moment, en fait, j'avais besoin d'être délivrée de ça aussi. Il fallait que ça s'arrête, il fallait passer à autre chose. Donc quand j'ai commencé le deuxième, j'ai dit j'ai proposé à Clara, qui elle était overbookée sur plusieurs mois à venir, donc j'ai dit c'est pas grave, mais comme je veux le faire maintenant, bah j'y vais. Mais avec l'illustratrice Camouche, donc, qui fait le volume 2, dès le début j'ai dit, moi, si on le fait ensemble, voilà, il faudra qu'il y ait un timing pas trop long. Voilà, alors c'est pareil, hein, tout ça c'est des discussions, on s'entend, et à chaque fois j'ai eu de la chance sur les deux volumes. Vraiment, c'est des personnes, des illustratrices de qualité, très professionnelles, donc c'est chouette, c'est de la chance.
Je reviens un peu sur le droit expliqué aux enfants. Quel est pour vous l'intérêt d'apprendre si jeune, le droit d'apprendre si jeune, ces bases de droit pour la suite?
Alors déjà, c'est un petit défi, voilà, parce qu'on le fait pas, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on part du principe que c'est pas possible, en fait. On peut pas apprendre le droit aux enfants, donc il y a un petit côté défi que je trouve stimulant et intéressant. Mais un défi pour un défi, bon, pas trop d'intérêt, mais un défi qui fait sens, encore une fois. Et donc, quel est le sens d'apprendre le droit aux enfants? Mais c'est d'en faire des membres à part entière de la société. On leur apprend plein de choses aux enfants. Quand on compare ce qu'on leur transmet comme connaissance aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait leur apprendre aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande de savoir, mais pas le droit. C'est pas possible. Donc, en réalité, ils sont membres actuels de la société, ils ont des droits en tant que personne, ils sont de futurs citoyens, ils sont à un âge où on apprend les règles du vivre ensemble, et donc, alors, le vivre ensemble ne passe pas que par le droit, mais en partie par le droit. Et précisément, qu'est-ce qui passe par le droit? Qu'est-ce qui ne relève pas du droit? Quelles sont les limites du droit? Tout ça me semble mais indispensable de le savoir, alors, à hauteur d'enfant. Mais précisément, on pose des bases, on sème des petites graines, pour tout le monde, déjà. Comme ça, après, chacun, dans sa vie scolaire, personnelle, professionnelle, va étoffer laisser grandir cette petite graine, ou étoffer les connaissances qu'il va pouvoir acquérir et les greffer à partir de cette structure que tout le monde aura pu avoir. Parce que c'est effectivement mon idée, c'est que la connaissance du droit soit aussi diffuse que n'importe quel autre savoir qu'on estime logique que les enfants aient. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que ce soit une sensibilisation populaire, une éducation populaire pour tout le monde. Voilà.
Et comment on peut parler du droit avec ses enfants si on n'a pas forcément la BD? Comment, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut que vous disiez, planter ces petites graines?
Alors, dans la vie de tous les jours, c'est difficile parce que les adultes qui entourent les enfants, quels qu'ils soient, n'ont pas forcément les connaissances en droit. Donc c'est très difficile, en réalité. Mais bon, je me dis que si la génération qui vient avait les connaissances, en réalité, ça n'arriverait plus, et les adultes de demain pourraient déjà discuter avec leurs propres enfants. Mais alors aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de connaissances en droit, c'est très difficile d'enseigner ou de discuter de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors il faut se renseigner soi-même. Il y a des livres, il y a beaucoup de sites, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour rendre accessible la connaissance du droit, mais ça reste difficile. Alors oui, c'est vrai, je ne sais pas trop comment on pourrait enseigner le droit quand on ne le connaît pas, c'est vrai.
Peut-être finalement lire,
alors, un état adulte. Les adultes qui le lisent apprécient, oui. C'est très simple, mais beaucoup m'ont dit, mais on apprend des choses. Et on en discute avec nos enfants. Ça ressort quasiment systématiquement, les discussions, les échanges. Donc c'est un moment aussi de partage dans la famille, entre amis, à l'école, au centre d'animation, peu importe. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est moi, je ne conçois pas l'enseignement comme déverser un savoir, mais plutôt comme appeler les gens, éveiller les gens à se poser des questions. Voilà. En fait, c'est ça l'intérêt. Et peut-être pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, comment enseigner le droit dans la vie de tous les jours ? En se posant des questions. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire ça ou pas ? Comment savoir s'il a le droit ? Est-ce que c'est juste ou pas juste ? Mais qu'est-ce que ça veut dire juste ? Est-ce que le droit définit ce qui est juste ? Comment il le... Voilà. En vrai, je pense que c'est plus ça qu'il faut apprendre à avoir comme réflexe, à se poser des questions, à se donner le droit de poser des questions. Souvent, j'ai l'impression que c'est un peu dans la culture française, on est un peu timide ou complexé, on a peur de poser les mauvaises questions, de dire des bêtises, mais en fait, on ne peut pas dire de bêtises. On dit quelque chose qui est juste ou qui est faux, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est gagnant-gagnant dès lors qu'on le dit, parce qu'on va l'éprouver, parce qu'on va le confronter. Et donc, déjà, si on se pose des questions, c'est positif. Et d'avoir la réponse, c'est très bien. Parfois, il n'y a même pas de réponse. Et ça aussi, apprendre que dans la vie, parfois, il n'y a pas toujours de réponse, que ce n'est pas très clair, et que le droit, notamment, va à l'inverse d'un présupposé qu'on lui attribue. On pense que c'est carré, qu'il y a réponse à tout. Ben non, dans plein de cas, il n'y a pas forcément de réponse précise. Est-ce que c'est bien ou pas bien qu'il n'y ait pas de réponse précise ? Ça aussi, c'est une autre question. Hein. Voilà, donc la différence entre ce qui relève de l'opinion ou ce qui relève de la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité en droit ? Ça, c'est une bonne question. Mais voilà, après... Donc, on n'a pas forcément les réponses, mais peut-être déjà d'apprendre à se poser les questions. Oui.
Et une dernière question, est-ce que un tome 3 est envisageable ou pas du coup, parce que vous étiez parti pour faire un seul tome et finalement vous continuez?
Il y a largement la place de faire un tome 3, ça c'est certain. Est-ce que j'ai envie de faire un tome 3, c'est certain aussi. Après voilà, quand, je sais pas. Et est-ce qu'il y aurait un tome 4, ça je suis un peu moins certaine. C'est-à-dire que autant j'ai déjà les idées pour le tome 3, autant après peut-être qu'une fois qu'on a fait le tour avec ce format-là et qu'on a fait le tour des questions principales d'une introduction au droit, peut-être qu'il sera temps de passer à un autre format ou à un autre sujet en particulier, je sais pas. En tout cas, le tome 3, j'espère, oui.
Bienvenue sur Vibration.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now, woo. There's a tornado, ooh, in my city, in the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey, we're surviving. A breakup, kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas, ain't no hold'em, hey. Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys up. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Too hot to think straight.
rhymes with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now. Take it to the floor now, ooh.
Oops, spies,
boots. To the floor now, take it to the floor now.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots. Solagenic, photogenic. Shoot.
La nuit, c'est le moment sur Vibration où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Libérer la parole des enfants victimes de harcèlement, de violence, voire de maltraitance. L'association Les Papillons installe depuis 3 ans maintenant des boîtes aux lettres dans les établissements scolaires et les clubs sportifs à travers le pays. Explication avec Laurent Boyer, le président de l'association.
Cette association, c'est le fruit de mon histoire, puisque moi j'ai été victime de viol lorsque j'avais 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans par mon frère. Et j'ai gardé le silence pendant plus de 30 ans. Et cette association, elle est née de la volonté de justement faire en sorte que les enfants qui sont victimes de toutes les formes de maltraitance, finalement, ne s'enferment pas dans le silence et aient autant de mal à se reconstruire, parce qu'au final, on se rend compte que plus encore que le mal qu'on nous a fait, c'est toutes ces années de silence qui finissent par nous asphyxier et par nous faire aller dans les sentiments de honte et de culpabilité. Donc c'est vraiment pour couper ce silence que j'ai créé l'association Les Papillons. Nous, on porte le dispositif des boîtes aux lettres papillons. Ce sont des boîtes aux lettres qu'on installe dans les écoles pendant le temps périscolaire. Enfin, on explique aux enfants le dispositif pendant le temps périscolaire et on les installe aussi dans les clubs de sport, puisqu'on est conventionné par le ministère des Sports. Et le but, eh bien, c'est que les enfants écrivent à l'intérieur de ces mots, de ces boîtes aux lettres, pardon, et au moins 2 fois par semaine, il y a des personnes de confiance qui sont identifiées par les structures, qui récupèrent les courriers et qui les envoient via une adresse mail sécurisée à ce qu'on appelle, nous, notre pôle d'analyse des courriers papillons, qui est un pôle composé de 12 bénévoles de l'association, mais qui sont tous obligatoirement soit des médecins, soit des psychologues, des éducateurs spécialisés, des membres de l'éducation nationale. Ce sont eux qui analysent et qui traitent les courriers.
Quelle suite pour les mots jugés inquiétants que vous recevez?
Alors, selon le danger, la gravité des faits qui sont dénoncés par l'enfant, bien soit le mot est transformé en une information préoccupante qu'on envoie à la CRIP. Donc la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes qui se trouve dans chaque département. Ou bien alors, quand vraiment les faits représentent un danger grave et immédiat pour l'enfant, eh bien là, le mot est transformé en un signalement qui lui est adressé au procureur de la République. Et puis, pour les mots les moins graves, eh bien, ce sont notamment les mots qui touchent au harcèlement scolaire, aux incivilités scolaires, et tous ces mots-là, eh bien, ces mots sont renvoyés à la personne référente qui est identifiée par la structure pour qu'il puisse y avoir un traitement en local des mots qui ont été déposés par les enfants. En moyenne, on va dire que 5% des mots qu'on reçoit deviennent des informations préoccupantes et 2% des mots qu'on reçoit deviennent des signalements.
Et depuis le début, combien de mots vous avez collectés dans vos boîtes aux lettres ?
Oh, ça fait plusieurs centaines de mots à chaque fois. L'année dernière, pour information, l'année dernière, c'est 61 000 enfants qui ont accédé à nos boîtes aux lettres. Donc forcément, en 3 ans de notre existence, d'abord, il a fallu convaincre pour déployer nos boîtes aux lettres, et ça reste toujours assez compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe par le temps périscolaire. Notre première boîte aux lettres, elle a été déployée le 6 mars 2020. Donc, ça fait vraiment que 2 ans qu'on déploie notre dispositif, et au fur et à mesure, cette année et l'année scolaire qui arrive, maintenant, on a montré que notre dispositif fonctionnait. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de municipalités qui nous contactent tous les jours, de clubs de sport. Ce matin, j'étais en visioconférence avec la direction régionale pour la jeunesse et le sport au niveau de l'Occitanie. Voilà, on est de plus en plus sollicités.
Vous pensez qu'il est plus facile d'écrire, de se confier par écrit que de parler pour les victimes?
Alors, je le vois par rapport à mon propre vécu. Pour moi, c'était impossible de dire et surtout donc de m'entendre dire le mal que mon père me faisait. En revanche, écrire, je le faisais, je l'écrivais dans un journal intime. Et en fait, finalement, j'attendais juste une main tendue. Et c'est ce qu'on veut que soit la boîte aux lettres pour les enfants qui sont victimes, c'est qu'elle soit vraiment une main tendue. Et puis, écrire, c'est encore la symbolique de sortir quelque chose de soi, de le coucher sur un papier pour vraiment, comme si on posait son fardeau. Donc, c'est un geste symbolique aussi assez fort d'écrire.
Laurent, voyez ce qui vous arrive d'être partagé entre la nécessité de ces boîtes aux lettres et la tristesse, la colère que vous pouvez ressentir à la lecture des mots des enfants?
Ah, malheureusement, je dirais que ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Là où il y a des enfants, il y aura toujours des ogres qui seront pas loin pour les manger. Le but pour nous, c'est pas qu'il y ait plus d'ogres. Le but, c'est de permettre aux enfants de libérer leur parole le plus vite possible. Alors, pour moi, c'est toujours à double tranchant quand on a des mots dans les boîtes aux lettres. Bon, maintenant, on a ce pôle, je les vois plus, les mots. Mais je sais que tous les jours, on a des mots qui arrivent dans nos boîtes aux lettres. C'est, d'un côté, c'est de me dire, zut, encore un mot. Et puis, de l'autre côté, c'est de me dire, notamment pour les mots les plus graves, c'est de me dire, oh ben, s'il n'y avait pas eu la boîte aux lettres, ben, cet enfant n'aurait pas pu être accompagné et n'aurait pas pu, finalement, même si il y a toujours la cicatrice, mais n'aurait pas pu revivre un petit peu sa vie d'enfant. Donc, je suis toujours partagé par à la fois être toujours triste qu'il y ait des mots et à la fois de me dire, bon ben, s'il y a des mots, c'est que les enfants ont compris qu'on était là pour les aider et que finalement, on va les aider.
Où en êtes-vous dans le développement de votre association, Les Papillons?
Alors là, on va parler plutôt de ce qui était sur l'année scolaire de l'année passée, puisque là, on est dans les phases de renouvellement de dispositifs. L'année passée, on avait 220 boîtes aux lettres qui étaient déployées. Et cette année, par rapport à là où on en est actuellement de nos renouvellements et des nouveaux dispositifs, je pense qu'on finira l'année dans les 300 à 400, l'année scolaire, hein, dans les 300 à 400 boîtes aux lettres. Donc pour nous, c'est une progression qui est toujours exponentielle et qui nous permet, ça nous permettra cette année, je pense, de d'atteindre entre 100 et 150 000 enfants.
Où peut-on trouver les boîtes aux lettres installées près de chez soi?
Sur le site internet, on essaye de montrer où est-ce qu'on en est de nos déploiements. Et puis il est aussi possible, même en tant que parent, et de devenir bénévole de l'association et pour justement porter notre dispositif dans sa ville, dans son club de sport. Donc vraiment, ce dispositif, il est accessible pour tout le monde. C'est juste une question de volonté. Et d'ailleurs, c'est la grande force de notre association, c'est que nous, on veut que le plus grand nombre de personnes nous rejoignent. C'est pour leur dire, voilà, il y a un moment où on peut toutes et tous devenir actrices, acteurs de la protection de l'enfance avec un objet qui est concret et qui est vraiment à proximité des enfants. C'est le seul. Nous, c'est notre grande fierté. La première tranche d'âge qui nous écrit, c'est les 8-9 ans. Ce sont vraiment des enfants qui n'appelleront pas le 119 parce qu'ils n'ont pas de téléphone. Donc vraiment, nous, c'est notre fierté de voir que des enfants si jeunes nous écrivent.
Votre association, Laurent Boyer, c'est un combat à mener, une réparation aussi peut-être pour vous?
Je dirais que la réparation, pour moi, je l'ai déjà. C'est donner un sens, parce que sinon, ça n'a pas de sens, ce que mon frère m'a fait. Et cette question, c'est toujours la même, c'est pourquoi, et c'est cette question-là qui nous rend fous. Avec les boîtes aux lettres papillons, avec l'association, avec toutes ces actions qu'on mène, 500 bénévoles qui sont à nos côtés, je me dis, si j'avais pas été victime, j'aurais pas su l'importance de l'écrit, j'aurais pas su qu'il fallait aller dans les écoles, qu'il fallait aller dans les clubs de sport, parce que c'était là où les enfants étaient en attente qu'on leur tende la main. Donc quelque part, ça donne du sens à ce qui m'est arrivé.
Merci Laurent Boyer, je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Papillons. Plus d'informations sur associationlespapillons.org. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait, I don't wanna wait, I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just
to celebrate. Baby, I just don't wanna wait.
Bienvenue sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique, mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Et c'est une problématique depuis de nombreuses années dans notre pays. Le recrutement dans les métiers de l'aide à la personne ou encore dans les maisons de retraite est en crise. Dans la métropole de Bordeaux, la ville de Saint-Médard-en-Jalle n'était pas épargnée. Stéphane Apoux, adjoint à la mairie, est en charge de l'économie et de l'emploi.
Donc la problématique, c'est que surtout le département, mais notamment en France, les gens ne veulent plus travailler dans les centres de santé, ça ne fait pas recette, ne veulent plus travailler en aide à domicile. Ce sont des métiers qui sont durs, qui sont contraints, avec des timings qui sont compliqués, et il manque énormément d'effectifs. Donc quand vous arrivez là-dedans, en général, que vous êtes une nouvelle recrue, le turnover est immense, et on s'est rendu compte que sur la ville de Saint-Médard, on n'arrivait même pas à en recruter un. Donc même un salarié, c'était très dur à recruter. En se renseignant sur les villes voisines, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable problématique sur ce type de recrutement.
Face à ce problème, il a été décidé de prendre le sujet à bras le corps et développer une initiative inédite.
Alors, ce qui est important d'expliquer, c'est que normalement les villes n'ont pas la compétence pour s'occuper de l'emploi. C'est Pôle emploi et le gouvernement qui s'occupent de l'emploi en France. Néanmoins, nous, ville de la métropole bordelaise, au début de la mandature, on a décidé de s'occuper de l'emploi parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de nombreuses problématiques, notamment dans les centres de santé. Et on s'est dit que, connaissant notre territoire, connaissant notre écosystème, on pouvait travailler avec Pôle emploi et on pouvait apporter notre pierre à l'édifice.
Et c'est l'organisme de formation formidable qui accompagne les nouvelles recrues. Et c'est l'organisme de formation formidable qui accompagne les nouvelles recrues. Mais avant cette étape, c'est un gros travail de sourcing qui est mis en place.
On est parti un peu dans l'innovation. Déjà, on a créé une délégation emploi. Nous sommes la seule ville de la métropole à avoir une délégation emploi, c'est-à-dire qui fait de l'audit RH, qui fait du consulting RH auprès de ces entreprises. Nous ne nous occupons pas des demandeurs d'emploi, ça on le laisse à Pôle emploi, mais nous on travaille avec les entreprises. Donc quand nous sommes allés dans nos EHPAD, la problématique c'était la formation, c'est-à-dire que les gens étaient lancés dans la vie active et dans les nouveaux établissements, et puis ils étaient mis en binôme avec des salariés compétents, il n'y avait pas de problème, et qui n'étaient pas formateurs, qui n'avaient pas le temps, qui étaient eux-mêmes contraints dans le temps. Donc finalement on s'est rendu compte que la problématique elle venait sur ce qu'on appelle le onboarding, c'est-à-dire la réception. Vous recevez un nouveau salarié, si vous ne lui montrez pas le sens de son métier, la mission globale, donc il y avait quelque chose de à la fois de pivot sociétal. C'est-à-dire montrer le sens, montrer que ce métier est un métier qui a du sens, où il y a d'énormes valeurs, où vous occupez quand même de nos aïeuls, et tout le monde sera, je pense, conscient que s'occuper des personnes âgées, de nos parents et de nos grands-parents, c'est une chose formidable, et qu'il fallait donner des vraies valeurs à ce métier-là. Donc déjà, bien le vendre sur les annonces, bien l'expliquer, et puis ensuite, bien former les gens. Et donc pour cela, nous avons mis en expérimentation et nous avons travaillé avec un centre de formation spécialisé qui s'occupe de l'accueil, s'occupe de montrer et fait vraiment un tutorat au millimètre près, c'est-à-dire 3 jours de formation ou 3 fois 7 heures. C'est-à-dire durant toute la journée, vous avez quelqu'un qui vous explique le pas à pas et qui vous fait démarrer la course de l'emploi, c'est-à-dire cette nouvelle embauche, dans de très très bonnes conditions. On cherchait pour les aides à domicile et les centres de santé des gens qui avaient des qualifications dans ces métiers-là. Sauf qu'on n'en trouvait pas. Et c'est pour ça qu'on arrivait du mal, on avait du mal à recruter. Eh bien, nous, on n'a pas catégorisé les gens. On s'est dit qu'il y avait des transférabilités de compétences. À l'ère où vous avez plein de gens qui veulent faire des reconversions professionnelles, qui veulent changer de métier, qui veulent donner du sens à leur vie, la crise sanitaire a vraiment fait un basculement sur ça. On a plein de gens qui veulent changer de vie. Eh bien, on s'est dit qu'il y avait, s'ils avaient été bons quelque part, ils pouvaient être très, très, ils pouvaient être bons dans les centres de santé et le travail d'aide à domicile. Donc, on a fait un gros sourcing. Par exemple, je vais vous donner quelques statistiques sur la première session, la première promotion, nous avons sourcé 250 personnes. Sur ces 250 personnes, nous avons fait des rendez-vous communs où nous avons tous reçu par petits groupes et leur expliqué quel était le métier. Avant même de parler de ce qu'ils allaient faire, du poste, on a parlé du métier, on a déjà évangélisé, émancipé les gens sur qu'est-ce que c'était ce métier-là et quels étaient les côtés positifs de ce métier-là. Et au fur et à mesure, avec la délégation emploi et puis tous les partenaires, hein, parce qu'on a travaillé avec Pôle emploi, on a travaillé avec les structures, on a travaillé avec le centre de formation, on a réduit l'entonnoir et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait des gens qui étaient complètement adaptables à ces boulots-là. Voilà. Donc, une fois qu'on avait sourcé ces personnes-là, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, on les a accompagnés, on les a formés et on a mis en place des dispositifs d'intégration. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des mauvais recruteurs et puis des mauvais demandeurs d'emploi. C'est que, en fait, des fois, ils ne parlent pas le même langage. Le demandeur d'emploi a besoin de se sentir un peu baqué, sécurisé, et puis et le recruteur lui a besoin de bonnes recrues. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, et c'est ce lien-là que la ville a fait sur Saint-Médard-en-Jacques. En 6 mois, on a recruté ce qu'on était incapable de recruter en 7 ans. Donc, c'est-à-dire que 25 nouveaux salariés dans les EHPAD et à la DHM, hein, d'aide à domicile, c'était déjà un gros chiffre. Et je vais même vous dire quelque chose de plus fort, c'est que nous sommes en excédent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de tellement bien sourcer, on a tellement bien compris ce que voulaient les gens et comment il fallait leur expliquer, que nous sommes en excédent, c'est-à-dire que nous sommes même plus capables d'accueillir les nouvelles recrues et que nous pourrions même en donner ces profils-là aux villes voisines. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Là, par exemple, on a eu 10 profils début janvier qu'on n'a pas pu caser chez nous parce que les établissements ne peuvent pas non plus intégrer comme ça à tout va. Il faut bien le faire. Donc pour bien le faire, ils ne peuvent pas. Donc nous sommes en excédent de recrutement. On a dû arrêter le sourcing et les recrutements. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous sommes la seule ville de la métropole et du département à avoir trouvé une solution qui permet de recruter dans un milieu où on ne pouvait plus recruter.
L'organisme de formation formidable met le pied à l'étrier, mais cette formation ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme. Elle permet de mettre en confiance la personne embauchée et lui donner les clés pour bien faire son travail. Cet accompagnement avec l'organisme de formation a aussi pour but de ne pas surcharger les autres salariés déjà présents dans l'établissement qui n'ont pas forcément le temps de former leurs collègues. Saint-Médard-en-Jalles aurait-elle trouvé la formule magique pour ce problème de recrutement ?
Au début, quand on a attaqué ce secteur-là, on m'a dit « Monsieur Apoux, avec la nouvelle délégation emploi de la ville de Saint-Médard, tu ne vas pas y arriver. » Tu vas pas trouver des solutions là où personne n'arrive à en trouver. Ben, nous y sommes arrivés. C'est-à-dire que nous y sommes arrivés en 6 mois. Et en plus, maintenant, nous sommes en excédent. Donc, nous allons créer bientôt une conférence interville métropolitaine avec tous les CCAS pour déjà transmettre le savoir, leur expliquer, regardez, en faisant ces méthodes-là, en travaillant comme ça, ville, partenaire et structure, on arrive à engager de l'emploi et on arrive à trouver des solutions. Donc déjà, on va transmettre, parce que ça sert à rien de laisser ça à Saint-Médard-en-Jacques. On a trouvé un bon processus, eh bien on va faire la passe décisive aux voisins pour qu'ils puissent faire la même chose chez eux. Déjà, premier truc. Et puis deuxième truc, vous avez raison, du moment où on avait trouvé une solution sur quelque chose qui était super compliqué, des métiers qui sont quand même pas faciles, on s'est dit, ben, ça peut faire des bébés, ça peut faire des petits, et on va aller voir les voisins. Et on n'a pas eu besoin de le faire, on a quasiment le Leclerc de Saint-Médard-en-Jacques. On sait que sur la région, Leclerc est le deuxième centre commercial de la région après Auchan, hein, centre Leclerc de Saint-Médard-en-Jacques. Ils ont un brico-marché, un brico-Leclerc. Le brico-Leclerc nous a dit exactement la même chose. Nous avons du mal à recruter, est-ce que vous pourriez nous aider avec votre méthode? Et nous sommes en train déjà de le faire depuis janvier, avec exactement le même processus. Et au moment où je vous parle, il y a déjà eu 10 recrutements qui ont été faits au brico-marché, là où ils n'arrivaient toujours pas eux-mêmes à en faire. Voilà, donc je viens de répondre à votre question. Oui, ça marche. Et ce qui marche, c'est quoi ? C'est novateur et à la fois, il fallait prendre le temps de le faire. C'est prendre du temps avec l'humain, donner du sens au travail, expliquer aux gens où ils sont, valoriser le poste de travail, ne pas avoir une nouvelle recrue en pensant que c'est une variable d'ajustement qui va faire tout ce que personne ne veut faire, parce que ça, il n'y a rien de mieux que perdre les employés quand vous leur faites faire des choses que plus personne ne veut faire, et bien les former. Et une fois que vous avez mis en place ce processus, il y a beaucoup de partenaires, hein, il y a beaucoup de partenaires, d'associations de recrutement qui rentrent là-dedans, c'est pour ça que c'est pas aussi simple que de se dire on va juste former, ça c'était bien plus simple. Non, il y a tout un processus de changement dans l'entreprise qui s'effectue après cette méthode-là. Donc cette méthode est innovante, elle est déjà donc en fonction au brico-Leclerc au moment où je vous parle, et on va continuer. La délégation emploi a pour objectif d'aller ratisser toutes les entreprises qui ont des difficultés de recrutement.
Vibration. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Y se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad alejada.
ansiedad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada más. Posible es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Bienvenue sur Vibration, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur Vibration.
Alors donc du coup je vous présente en tout cas comme Jean Moreau, fondateur de Phoenix.
Oui, c'est bien ça.
Du coup Phoenix existe depuis 2014 ou je me suis trompé?
Non, c'est ça, Phoenix a été créé en mars 2014, très exactement, donc il y a un peu plus de 9 ans maintenant.
Une première question, justement, parce que j'ai vu que vous étiez banquier d'affaires et que vous aviez lancé Phoenix. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sens que c'est vraiment quelque chose qui est chevillé à votre corps, cette volonté de se battre contre le gaspillage alimentaire. Pourquoi?
Effectivement, donc moi j'ai commencé ma carrière dans la finance traditionnelle. J'étais même dans une banque d'affaires américaine où je faisais ce qu'on appelle des fusions-acquisitions. Donc un métier très intense, assez prestigieux aussi, et très axé sur l'économie, la finance, les gros groupes du CAC 40. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. J'étais pas malheureux, mais je trouvais que mon quotidien, mon métier manquait de sens. Et j'aspirais à créer une boîte, une entreprise qui apporte quelque chose à la société et à la planète, et qui fasse tourner le monde dans une meilleure direction, disons. Donc j'ai quitté le confort et les salaires, les bonus de la finance, pour à 30 ans partir à zéro. Et créer Phoenix en me disant on va connecter ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, et on va essayer de créer une entreprise un peu hybride qui a à la fois la volonté d'avoir de la croissance, de créer de l'emploi comme une start-up classique, mais qui en même temps a un petit supplément d'âme qui est la mission anti-gaspillage et solidaire. Et donc voilà, ça a marché presque mieux que prévu, mais tant mieux pour tout le monde.
Mais pourquoi le gaspillage alimentaire? Est-ce que vous auriez pu vous orienter vers plein de choses? Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le gaspillage alimentaire?
Eh bien, la vérité, c'est que je trouve que c'est un sujet qui est très complet, puisqu'il y a à la fois un enjeu environnemental. C'est pas très connu, mais si le gaspillage était un pays, ce serait le 3e contributeur de gaz à effet de serre, juste après la Chine et les États-Unis. Donc, on a la nourriture produite, transportée, et qui en fin de chaîne est détruite ou incinérée, elle dégage beaucoup, beaucoup d'impact carbone. Donc, on a un gros pilier environnemental. Et évidemment, la deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment un pilier social, puisqu'on a un rôle de Robin des Bois. On récupère les invendus chez les usines, dans les magasins, les hypermarchés, les commerces de proximité, et on les redistribue soit au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, à l'aide alimentaire classique, soit dans des paniers anti-gaspillage aux consommateurs. Donc on redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs fragiles. Donc on a un vrai impact sociétal, et dans la période d'inflation, c'est plus que nécessaire. Et puis il y a un volet digital, technologique, puisque pour faire tout ça, on a créé une application mobile, l'application Phoenix, et une plateforme pour digitaliser à l'aide alimentaire et faire en sorte que les dons se fassent de façon fluide. Donc voilà, tout ça fait que c'est un projet qui, à mon avis, est super complet et qui est aussi dans l'air du temps. On a du vent dans les voiles avec toute la dynamique zéro déchet, anti-gaspi, économie circulaire et aussi malheureusement avec l'actualité brûlante sur l'aide alimentaire, la dynamique inflationniste, la quête de pouvoir d'achat. Donc voilà, on pense que la société qu'on a créée, elle est utile et de plus en plus utile et qu'elle constitue un peu un modèle aussi pour la façon de réinventer le rôle de l'entreprise dans la société.
Moi, j'avoue que je trouve ça assez impressionnant tout ce que vous avez développé parce qu'en effet, vous dites l'application. Donc là, c'est pour les particuliers. Vous avez aussi une plateforme pour les associations et vous aidez aussi les animaux et les parcs animaliers. Avec tout ça, comment ça se fait qu'il y a encore, entre guillemets, du gaspillage alimentaire? Est-ce que c'est les industriels qui jouent pas le jeu? Pourquoi?
On fait trois choses. Nous, on récupère les invendus et puis après, notre métier, c'est de le donner à des assos, à des consos ou à des animaux. Et on pense que c'est cet ensemble de solutions, les trois filières de deuxième vie réunies, qui font qu'on arrivera vraiment au zéro déchet, zéro gaspillage. Donc les consommateurs, c'est sur une application mobile pour acheter des paniers à prix cassé. Les assos, ce sont les collectes alimentaires des invendus traditionnels. Et puis ce qui n'est pas consommé ni par des humains avec des consommateurs sur l'application, ni par des assos caritatives, c'est proposé à des animaux, donc la SPA, un centre équestre, un parc animalier, un zoo. Et donc, les excédents de nourriture vont nourrir les bêtes plutôt que la poubelle. Donc, on trouve que c'est du bon sens. Et pourquoi ça va pas plus vite? Pourquoi il reste encore du gaspillage? Parce que parfois, c'est encore trop perçu comme un sujet qui est pas un sujet prioritaire. C'est un sujet sympa, sexy, qui donne du sens, mais qui est pas dans le cœur de métier d'un grand magasin, qui est pas au cœur des processus d'une usine. Et donc, il faut qu'on arrive à remonter un peu la chaîne de valeur stratégique. Et qu'on explique aux décideuses et aux décideurs que non, c'est un projet dorénavant qui est central pour la planète, pour la société et pour tout ce qui est attendu par les consommateurs et les politiques. Et donc voilà, ça c'est notre métier de prêcher la bonne parole. Et donc c'est pour ça que des émissions de radio comme la vôtre ou des journées anti-gaspi comme celle du 29 septembre nous aident à prêcher la bonne parole et à porter ce combat anti-gaspi zéro déchet.
Quand vous dites les décideurs, c'est que y a pas assez de volonté étatique aussi? C'est pas un sujet qui est central pour le moment?
Alors, on a quand même été bien aidé, pour être honnête, par la puissance publique, puisqu'il y a deux choses qui nous aident. La première, c'est qu'il y a une loi anti-gaspillage qui interdit de détruire des invendus encore consommables. Donc, avant, ce qui se passait parfois, c'est que les invendus, à partir de J-3, J-2, étaient sortis des rayons et puis ils étaient javelisés. On mettait un peu de javel dans la poubelle pour pas qu'il y ait de glanage par les SDF du coin. Et ça, c'est devenu interdit. Et donc, c'est passible d'une amende qui va jusqu'à 10 000 euros par infraction. Donc, il y a vraiment le bâton réglementaire, la loi qui interdit de jeter. Après, elle est plus ou moins respectée sur le terrain, mais en tout cas, les politiques ont fait le boulot, disons. À côté de ça, il y a un deuxième dispositif en miroir qui est pas un bâton, qui est plutôt une carotte. C'est une carotte fiscale. Et si les usines, les magasins, les industriels jouent le jeu et donnent des invendus aux associations d'aide alimentaire, ils sont éligibles à une réduction d'impôt. Et c'est 60% de la valeur du don qui est défiscalisable. C'est un peu comme pour les particuliers. Donc tout ça pour dire que l'État a quand même joué son rôle avec ce cadre réglementaire qui est incitatif et contraignant. La loi anti-gaspi et la fiscalité avantageuse. Et nous, ça nous a aidé à démarrer et à décoller aussi. Mais on pourrait aller encore plus loin. Et donc, voilà, c'est bien si les consommateurs mettent la pression sur les réseaux sociaux. C'est bien quand les médias mettent de la lumière sur ce sujet. C'est bien aussi quand les assos caritatives prennent la parole, comme ça a été fait par le président des Restos du Cœur, haut et fort. Ça remet l'église sur la place du village. Donc voilà, chacun doit jouer son rôle et le combat n'est pas fini.
Et justement, quand vous dites le combat n'est pas fini, en l'état, on en est où? C'est quoi un peu l'état des lieux du gaspillage alimentaire en France? Est-ce que ça réduit? On a des chiffres?
Alors en France, on considère que c'est à peu près 10 millions de tonnes de gaspillage par an. C'est les chiffres de l'ADEME. Ça correspond à peu près à 16 milliards d'euros de valeur de produits. Et au niveau du consommateur, pour que ce soit plus parlant, le gaspillage, c'est quoi? C'est 70 euros de courses jetées chaque mois, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gaspillage chez les consommateurs, dans les frigos, les yaourts périmés au fond du frigo, les fruits qu'on laisse un peu pourrir dans le bac à fruits, une conserve qu'on a ouverte et qu'on a à moitié terminée. Et donc ça, pour que les auditeurs se rendent compte, c'est 70 euros par mois et par foyer. Et donc, ça fait quasiment 850 euros à l'année. Donc, c'est aussi pour dire qu'en période d'inflation, et quand tout le monde cherche un peu des économies pour pouvoir payer les factures d'énergie et, et d'essence qui explosent, eh ben, l'anti-gaspi, c'est le bon vieux réflexe qu'avaient nos grands-parents d'accommoder les restes, de garder un peu de jugeote par rapport aux dates de péremption, de redécouvrir certaines recettes, de ça, il faut que ça revienne parce que ça permet d'économiser quasiment presque un SMIC à l'année quand on fait les choses bien.
Bah, ça me permet d'embrayer sur justement le lancement de ce livre avec des recettes anti-gaspi. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Comment ça a émergé, ce projet?
C'est un projet qu'on a déjà en tête depuis quelques mois. Et donc, on a voulu créer un guide de recettes à la fois anti-gaspi et à petit prix pour montrer que la dynamique de lutte contre le gaspillage alimentaire, elle est évidemment vertueuse pour la planète, mais elle est aussi vertueuse pour le porte-monnaie et que on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, en retrouvant d'un côté le goût de la cuisine, retravailler les restes, être un peu inventif dans la façon dont on conçoit ses repas. Et en même temps, c'est bien pour le porte-monnaie, puisque en faisant ça, on économise, comme je l'ai dit, quasiment 70 euros par mois et 850 euros à l'année. Donc, c'était tout l'esprit de ce livre, donner des recettes pour les Françaises et les Français qui veulent cuisiner et se nourrir un peu différemment avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et donc, on a presque une cinquantaine de recettes qui vont du velouté d'asperges avec des queues d'asperges à la tarte tatin d'échalotes, à des soupes de fans de radis, des glaçons aux herbes aromatiques. Voilà, on a essayé d'être assez large dans la palette et on l'a fait avec quelques clients qui s'engagent avec nous et qui voulaient aussi donner leurs bonnes astuces.
Mais du coup, il y a eu un chef cuistot qui vous a aidé à élaborer des recettes?
Non, on a concerté plusieurs, on s'est inspiré de certaines choses, mais on a essayé de revisiter des recettes traditionnelles sous l'angle anti-gaspi. Donc c'était plutôt du travail interne des suggestions des gens de Phoenix, des 200 phéniciens et puis de nos clients.
Et j'ai une dernière question. Alors là, c'est plus pour moi aussi pour comprendre, parce que j'ai déjà fait aussi l'interview de Too Good To Go. Donc eux, c'est plus seulement sur votre format application avec produits pour des paniers pour les particuliers. C'est quoi la différence entre vous deux? Est-ce qu'il y a une concurrence ou même pas? En fait, vous jouez le jeu et votre but, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Alors il y a on est deux acteurs sur le secteur sur ce segment là donc il y a une forme de concurrence, mais on est quand même dans un secteur où on est plus dans la collaboration pour la même lutte que dans la concurrence frontale et agressive. Mais en gros, nous on est une entreprise française, Too Good To Go est une entreprise danoise. Ça, c'est une première différence. Nous on est made in France et on le revendique. La deuxième chose, c'est que, comme vous l'avez dit, nous on marche sur deux jambes. On a l'appli anti-gaspi pour les consommateurs. Et on a surtout aussi la face immergée de l'iceberg, qui est le don aux associations caritatives. Et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cannibalisation. Et parfois, quand on fait trop de paniers anti-gaspi, il ne reste plus grand-chose en fin de chaîne pour l'aide alimentaire. Et comme nous, on a ces deux leviers, on essaie de mieux équilibrer les flux, là où d'autres peuvent être un peu plus inéquitables, quoi, disons. Et après, la vraie différence aussi, c'est l'offre. Donc, on retrouve chez Too Good To Go des commerçants qui ne sont pas chez Phoenix. Et vice versa. Donc c'est un peu le même combat que Uber Eats versus Deliveroo ou Deezer contre Spotify. Voilà, il y a deux gros acteurs et on se challenge. Et puis les gens, souvent on a beaucoup de consommateurs qui ont les deux applis et qui basculent de l'une à l'autre en fonction de l'offre, des codes promotion, des discounts, etc. Donc on est dans le même bateau et avec chacun ses petites spécificités.
des meilleures nouveautés au Classique 90-2000. Bienvenue sur Vibration. Vibrez avec nous.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné. On se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce